signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être restés plus que fidèles au poste et au podcast durant cette période qui s'achève, puisque Signe des Temps revient aujourd'hui avec des émissions neuves mais bricolées. On va faire ça avec les moyens du bord, mais on va quand même essayer d'interroger un peu ce qui se passe. Donc pardon d'avance pour la qualité du son et pour les petits problèmes qui pourront se rencontrer. D'abord, puisque cette émission se veut d'actualité culturelle, une question qu'on s'adresse à nous-mêmes, comment parler de culture quand il n'y a plus de culture ? La situation est paradoxale. La fermeture des cinémas, des libraires et surtout des salles de théâtre et de concerts met à mal une économie qui se caractérisait depuis des décennies par le foisonnement, mais aussi par voie de conséquence par le court terme, c'est-à-dire un taux de rotation de plus en plus rapide de films et de spectacles devenus des biens de consommation comme les autres. C'est cette spirale qui a brutalement été interrompue pour cause de virus et remplacée par le vide. Après le terrorisme et la crise financière, mais de manière bien plus radicale encore, le Covid-19 achève ainsi d'instaurer pour notre nouveau siècle une sorte d'état d'exception comme tendance, aux conséquences imprévisibles. Et si la culture est ce qui se passe quand les choses sont normales, l'art lui-même est un acte extrême, une exception justement. Alors le retour du business as usual est-il possible économiquement et est-il aussi artistiquement souhaitable ? Faut-il revenir à ce qui était ou bien se mettre en quête d'un art capable de répondre à ce que notre époque a d'inédit ? Quelle dramaturgie pour répondre à la dramaturgie sociale de la crise aujourd'hui sanitaire et demain économique ou même géopolitique ? On ne va pas répondre à ces questions en trois petits quarts d'heure, surtout dans ces conditions, mais on va tenter de déchiffrer un peu le terrain. Avec pour en parler avec nous aujourd'hui Boris Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, auteur de 2 pièces de théâtre et de 3 romans, dont l'éducation occidentale chez Actes Sud, pour laquelle je vous avais déjà invité, et dont le magazine littéraire a écrit que les descriptions de cadavres font songer aux toiles de Bacon, tandis que la technique narrative emprunte à Don DeLillo. Anne Aguillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste plasticienne et professeur des universités à Aix-Marseille Université. Vous travaillez notamment sur la cartographie alternative et ses enjeux politiques. Vous êtes aussi directrice de la revue d'art et d'esthétique Tête à Tête, qui a publié notamment un numéro de entièrement consacré à la notion de catastrophe et à la réponse des artistes à la catastrophe. Enfin, Michel Aurier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du Label Bleu, ancien directeur général de la création artistique au ministère de la Culture, directeur de la musique et de la création culturelle aujourd'hui à Radio France. Et c'est par vous que je vais commencer. Je voudrais qu'on parle un peu de la vie culturelle avant la crise, de cette accélération du temps, des processus de production dans le temps court qui existait jusqu'au moment où tout s'est arrêté. Et quelles sont les conséquences de ça aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est dans une situation un peu exceptionnelle, comme vous le disiez au début de l'émission, tout s'est arrêté. Cet arrêt-là, effectivement, jette une lumière d'autant plus violente sur ce foisonnement, sur la densité des choses à laquelle on pouvait avoir accès avant la pandémie. La densité en tant que telle n'est pas forcément un sujet. Ce qui me frappait beaucoup dans ce qui préexistait, c'est cette contraction du temps. C'est-à-dire qu'on avait énormément de production, de création artistique, mais sur des temps à chaque fois très courts, et les choses succédant aux choses sans qu'elles aient le temps de s'installer, sans qu'elles aient forcément le temps de trouver leur public, sans qu'elles aient le temps non plus de se déployer artistiquement. Mm-hmm. Et cette profusion-là a créé une sorte de système en même temps. Et oui. Ce système-là est un système qui pose à chaque fois des problèmes de relation au public, au renouvellement de public, à son élargissement, qui est vraiment problématique.
Ça a aussi créé une écologie économique, en quelque sorte. Ça a permis à beaucoup de gens de vivre de ce foisonnement et ce temps. Et
oui,
rétrécissement du temps.
Absolument. Ce foisonnement, il naît de la multiplicité des initiatives, il naît de cette envie qu'on a d'entendre l'autre, mais la façon dont il s'installe, dont il fonctionne, etc., pose un certain nombre de questions qui vont de part avec une sorte d'hyperconsommation.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction entre la vieille contradiction entre la culture et l'art, la phrase de Godard sur Van Gogh, Van Gogh a mis du temps avant de trouver le jaune. Est-ce qu'on peut trouver le jaune quand on est pris dans le calendrier de l'économie culturelle traditionnelle ?
moi, ce que je pense quand même, c'est que on est dans un système où on est quand même, on a la possibilité d'avoir un autre rapport au temps. Ce que je souhaite, c'est que cette crise qui est terrible, parce qu'elle est épouvantable, évidemment, on est privé de notre public, on est privé de cette finalité de partager les mondes qu'on invente. C'est une chose absolument terrible. Mais ce que j'espère, c'est que cette sorte de temps vide qui est le nôtre va nous permettre de réinterroger ce rapport au temps sur lequel on a besoin de reprendre le contrôle pour justement pouvoir trouver le jaune, comme disait Godard vis-à-vis de vous.
Anna Guillot et Brice Leroy, l'un et l'autre, comment est-ce que vous vivez cette interruption du calendrier culturel dans lequel on vit depuis quand même plusieurs décennies maintenant ?
Je voudrais rebondir sur cette histoire de jaune et sur Godard. C'est vrai qu'il me semble qu'il y a deux questions qui peuvent se poser comme ça parallèlement. La question que vous posez aujourd'hui, comment parler de culture quand il n'y a plus de culture, mais on pourrait aussi poser une autre question parallèle et peut-être tout aussi, voire plus importante, comment parler d'art. La suite de la phrase, pour moi, ça n'est pas « lorsqu'il n'y a plus d'art ». Je rebondirai là, sur une autre phrase très célèbre de Godard, sur les différences entre la culture et l'art, la règle et l'exception, puisque l'exception est le titre de votre émission d'aujourd'hui. Il me semble que dans la crise que nous sommes en train d'évoquer là, il est davantage question d'arrêt de l'activité culturelle.
Exactement.
Plus que de l'arrêt de l'activité artistique. Alors, comme je sais que j'ai à côté de moi ou près de moi quelqu'un qui vient du monde de la musique et quelqu'un qui travaille aussi notamment dans le théâtre, je mets tout de suite un bémol à ce que je viens de dire. C'est qu'il serait important aussi de distinguer là les formes d'art et leurs formes d'existence. Autrement dit, il est évident que lorsqu'on est à la tête d'un orchestre symphonique qui a programmé des concerts et qui ne peut pas les donner, eh bien, ça s'arrête. Et il est évident que lorsqu'on écrit des pièces et qu'on ne peut pas les donner aux festivals qui sont prévus, ça s'arrête aussi. Mais je dirais que le fait que l'activité culturelle cesse, pour moi, n'est pas synonyme d'arrêt de l'activité artistique. Alors, on pourrait nuancer.
Et c'est une des choses que la crise met en lumière, c'est cette tension qui n'est pas neuve, mais qui est du coup un peu exacerbée entre la culture et l'art, qui est un débat qui remonte quand même pratiquement aux années 60. Brice Leroy.
Oui, il y a l'artiste, le citoyen qui peut être inquiet de sa survie, de la diffusion, et puis il y a l'artiste, le créateur. C'est toujours donc la dialectique entre création et diffusion. Moi, je suis dans un rapport un peu schizophrénique, parce que d'un côté, ma marginalité là d'aujourd'hui, elle devient une norme. Et puis d'un autre, je conçois pas non plus le travail de l'auteur sans aller enquêter sur le terrain. Donc finalement, il y a la diffusion, mais même dans le rapport même d'essayer d'écrire le contemporain, de trouver des dispositifs qui soient non seulement qui racontent l'époque, mais en plus qui pourraient peut-être articuler des réponses à des questions. Elle n'est pas seulement dans un confinement où je vais créer. C'est-à-dire qu'il y a, une vraie emprise avec le réel.
On va parler de la question des dispositifs, mais avant, je voulais rester sur cette question de l'économie culturelle, parce qu'on voit depuis une des réactions qui s'amorce, me semble-t-il, depuis le début du confinement, c'est ce qui se passe non seulement sur Internet avec les concerts des confinés, mais aussi on a eu de multiples journaux de confinement, on va pas les citer par charité, et puis les initiatives mises en place par le ministère de la Culture aussi, le site Culture chez nous, où on trouve, je cite, les premières phrases du site, sans plus attendre, venez explorer la richesse de près de 700 offres culturelles et artistiques en ligne proposées par plus de 500 acteurs de la culture. Le ministère de la Culture propose un voyage artistique à travers toutes les richesses de la culture. Regardez, visitez, lisez, écoutez, bonne exploration. Il y a des rubriques comme l'art dans tous les sens ou l'expression artistique sous toutes les coutures. Le Festival d'Avignon lui-même annonce l'accompagnement social de 432 emplois qualifiés qui sont maintenus et indemnisés jusqu'au 31 juillet 2020. Et à côté de ça, la diffusion de certains spectacles répétés, mais pas nécessairement joués, En liaison avec le ministère de la Culture, parmi lesquels d'ailleurs celui de spectacle d'Olivier Py lui-même, président du festival. Donc est-ce que ça traduit pas une sorte de foisonnement là sur Internet cette fois? Est-ce que ça traduit pas une sorte de panique, de refus de refus de simplement poser des questions? Est-ce qu'il y a pas quelque chose comme ça? On veut continuer, on veut que ça continue comme avant.
Pas forcément comme avant non plus. Enfin, je crois qu'il faut dissocier le temps de la réflexion dont on a besoin et qui est complètement souhaitable, qu'il faut vraiment arriver à instiller. Dans le même temps, on a besoin d'écrire, on a besoin de jouer. Moi, je sais que par exemple pour les orchestres, il était extrêmement important. Quand on est musicien d'orchestre, c'est le collectif qui prime et qui fonctionne. Et être privé de ce collectif, d'un seul coup, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et donc, c'est, alors évidemment, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on peut voir sur le net, il y a des choses qui ne sont pas du tout intéressantes. Et puis, il y a aussi de très belles expériences et des choses qui sont admirables. C'est d'ailleurs tout le paradoxe de la chose, hein, c'est-à-dire que ce temps-là qui arrive aujourd'hui va bénéficier beaucoup aux plateformes. Netflix, avant la pandémie, c'était déjà 40% de la bande passante. Enfin voilà, il y a ce paradoxe-là. Mais quand même, l'expression, il y a un moment donné, il faut que les choses trouvent un public aussi. Même de façon intime, parce que finalement c'est une relation beaucoup plus intime. Je pense beaucoup à Claude Régis en ce moment, parce que Claude avait toujours le désir de jouer pour très très peu de gens, 50 à 100 personnes, et finalement on va se diriger probablement vers quelque chose de cet ordre-là dans le retour progressif au rapport au public.
Mais est-ce que quand même, enfin, c'est particulièrement flagrant, il me semble, sur le site du ministère, mais d'une manière générale, aussi sur Internet, est-ce qu'il n'y a pas le désir tout de même de Anna Guyot de retrouver de faire perdurer dans la culture une sorte d'écologie des valeurs positives? C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une réticence à prendre en charge ce que la situation a de tragique, notamment dans le rapport à la mort, par exemple, qui existe très peu dans ce qu'on voit dans les concerts, dans les journaux de confinement, ou une espèce de bonne humeur généralisée qu'on voit se déployer dans le milieu culturel à travers Internet.
Bon, alors là encore, je pense que c'est parce qu'il y a aussi des réalités, des logiques qui s'affrontent évidemment on a besoin de continuer à faire vivre des gens qui ont été employés pour le Festival d'Avignon et de faire en sorte que tous les acteurs du milieu culturel d'une manière ou d'une autre puissent tant bien que mal avoir quand même un salaire à la fin du mois. C'est évident que cette profusion que vous avez décrite tout à l'heure, elle répond aussi à ce besoin.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce temps long, que certains d'ailleurs avaient espéré, avec le confinement, cette idée qu'on allait enfin pouvoir éponger le travail en retard, peut-être écrire, on a beaucoup fantasmé, on a entendu sur le fait que Shakespeare avait écrit La Tempête pendant la peste, etc. Enfin, vous voyez, cette espèce de regard comme ça, un petit peu romantique sur l'idée du temps long. Moi, j'y crois pas une seconde. C'est vrai que à partir du moment où il y a des gens qui à la fin du mois ont besoin de bouffer et parce qu'ils travaillent et ils vivent de l'industrie culturelle, eh bien cette urgence là elle est tout à fait compréhensible. Voilà.
Le fait est
que effectivement, moi je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a cette espèce de bonhomie et de bonne ambiance générale un peu simulée et qui met complètement de côté le fait que cette crise, on parle beaucoup de crise, moi c'est vrai que je préfère parler de crise plutôt que d'exception. Elle est selon cette définition très très célèbre de Gramsci, ce moment où l'ancien meurt et le nouveau ne peut pas naître. et que c'est à ce moment-là, en tout cas, que Gramsci lui-même a écrit cette phrase au moment où il était confiné, alors en prison, dans les jours mussoliniennes, où il explique que c'est à ce moment-là, dans ce moment où l'ancien est mort mais que le nouveau ne peut pas encore naître, qu'on observe des phénomènes morbides les plus variés. Et je crois qu'ils existent simplement, peut-être qu'ils n'existent pas sur les plateformes mainstream qui sont là pour nous remonter le moral.
Les temps sont durs, c'est pas Mariole. Vivement au cœur vienne le choléra. Je pourrais changer de chignol et me payer le cinéma. Et si le choléra marche bien, je pourrais faire des folies. J'agrandirai mon magasin et je prendrai des apprentis. Je serai la maison borgnole, le supermarché de la mort, cercueil à fleurs pour les pauvres mômes et à roulettes pour les vieillards. Je serai la maison borgnole, borgnole, borgnole. Maison Borgnole et Maison Borgnole et bière, cercueil, catafalque, Maison Borgnole.
France Culture, signe des temps, Marc Wetzmann.
Alors j'ai choisi cette chanson du Bert Felix Stephen qui est de 78 parce que c'est le rapport à la mort qui me semble manquer dans les manifestations culturelles qu'on voit aujourd'hui ici ou là. Parce que là, en ce moment, la mort est un peu partout, mais elle n'apparaît pas dans les différentes manifestations qu'on voit, qu'il s'agisse des journaux de confinement ou des plateformes d'artistes. Et je trouve ça intéressant à interroger. Boris Leroy, vous avez dans l'éducation occidentale, vous avez travaillé sur le terrorisme. Et une des premières phrases du livre, c'est la suivante. Il s'agit de contrôler ses facultés mentales et motrices pendant la description fragmentaire du désastre. Dans le livre, la phrase décrit à la fois les différents constats et prélèvements du personnage principal, qui est un agent scientifique de l'ONU dépêché sur la scène ravagée d'un acte terroriste. Et c'est aussi le processus d'écriture du livre. Et vous parliez tout à l'heure de processus et de dispositifs à mettre en place, dispositifs artistiques à mettre en place pour parler d'événements comme celui qu'on est en train de vivre. Quelles sont vos réflexions en ce moment sur ce qui se passe? Quelles sont vos réflexions en termes de dispositifs?
Eh bien, c'est un peu ce que vous disiez à propos de la mort. Comment est-ce qu'on peut mettre en scène la présence de la mort tout en sachant qu'elle peut arriver à tout instant? Pour certains, la mort est très présente. Pour d'autres, on est confiné très loin. Donc, il y a une espèce de... Comment est-ce qu'on peut arriver à superposer ces deux sensations? C'est ce que j'avais essayé de produire dans l'éducation occidentale, c'est-à-dire de... La narratrice, particulièrement quand la narratrice, par exemple, se demande si la femme qui est au milieu des militaires pleure son mari, est-ce qu'elle a une bombe dans son dos ou un enfant, simplement, donc c'est vie ou mort. Et comment est-ce qu'on peut arriver à relater cette sensation qu'on peut avoir de plus en plus dans ces états de crise où le potentiel et le réel se superposent à tout instant et changent la notion même d'impression de réalisme. Et j'ai l'impression que la poésie, au sens large, peut arriver à reproduire ces états équiprobables, comme on dit un petit peu La phrase longue et immersive, spéculative, contribuait aussi à ce type de principe. Je pense aussi à Musil. C'est amusant parce qu'on parlait de quel est le rapport entre la création et la diffusion, mais Musil qui pensait justement qu'il y avait plus d'avenir dans l'instable que dans le stable, ce qui disait que le présent, oui, c'est une hypothèse et on doit la dépasser. Et lui, moi, je suis de plus en plus sensible au fait qu'il est, sa fin, ça a été sa mort, quoi, de son œuvre. Elle n'a pas été diffusée. Il l'a gardée dans un travail de création sans diffusion, finalement. Ça pose des questions aujourd'hui, effectivement. Est-ce que je ne suis pas pour un malthusianisme artistique, ça, sûrement pas. Mais c'est vrai que c'est son geste, en tout cas, paraît exemplaire, en tout cas. Me paraît exemplaire aujourd'hui.
Mais c'est une question assez profonde. Dans un monde qui est de plus en plus instable, qui est régi par l'accident, comment trouver la forme artistique qui reflète ce qui se passe?
Absolument. J'ai l'impression que c'est peut-être assez naïf et innocent, mais mon impression, c'est que l'artiste ne doit pas seulement être visionnaire ou relater le monde par un prisme déformant, mais doit aussi proposer. Proposer, transférer, que son écriture, à quel point une écriture ou un dispositif peut être performatif. C'est intéressant parce qu'il y a des systèmes de fiction comme la finance qui est un système de fiction, créance, croyance. Il y a des dispositifs de fiction et ce dispositif de fiction est non seulement extrêmement performatif, mais l'adhésion est collective. La littérature, l'adhésion ne paraît pas collective. C'est quand même intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait trouver des dispositifs pour être, c'est naïf ce que je vais dire, mais aussi performatif.
Michel, comment ces questions se posent dans les milieux musicaux? Est-ce qu'il y a des artistes qui s'interrogent sur les formes neuves qui puissent dessiner l'imprévisibilité de ce qui se passe?
Oui, il y a par exemple de jeunes artistes lyriques qui ont fait une sorte de petit manifeste il y a peu de temps et qui sont regroupés dans une sorte d'association qui s'appelle Unisson pour réinterroger leur métier parce que de toute évidence il y a aussi ce besoin de retrouver de l'air et de pas se laisser enfermer par une économie qui aboutit à avoir des salles toujours plus grandes, de retrouver un peu de légèreté, d'intimité, et du coup de plus grande liberté de créer et d'ouvrir des champs nouveaux. Ça, je crois que c'est évidemment important. Ces questions-là vont revenir à la faveur de cette interruption, non pas du temps, mais de l'image et du son, quoi.
Oui, c'est la question. C'est pour ça que j'ai commencé par ce qui se passe en ce moment sur Internet, parce qu'il me semble qu'il y a une tension, pour pas dire une contradiction, entre la frénésie de vouloir de continuer à produire et la nécessité de prendre du recul pour pouvoir s'interroger sur les dispositifs neufs à trouver, s'interroger sur ce qui se passe, quelles sont les questions qui se posent, comment répondre à l'imprévisibilité des choses et des choses comme ça. Il me semble qu'il y a une contradiction entre les deux.
Il y a une contradiction, mais c'est les contradictions qui font avancer le monde. Il y a une vraie contradiction, c'est vrai. Mais en même temps, il y a la nécessité de parler, de garder un lien. Et le tout est de se ménager le temps de la réflexion. Mais c'est difficile d'aller contre ça, visiblement, compte tenu de tout ce qui se produit. Vous parliez tout à l'heure des journaux de confinement. Wajdi Mouawad tient très régulièrement un journal de confinement et il n'est pas le seul à faire ça. Enfin, on sent bien qu'il y a cette envie de continuer à dire le monde.
Mais par exemple, si on s'arrête, oui, tout à fait. Mais si on s'arrête une seconde sur les journaux de confinement, précisément sur le site du ministère de la Culture, les archives ont lancé une demande aussi à tous les citoyens de dire comment ils vivent le confinement et de sous toute forme. Ça peut être un texte, ça peut être une vidéo, ça peut être une installation. Mais alors comment est-ce qu'on fait la différence à partir de là? C'est sur le même site, hein, c'est sur le même site du ministère de la Culture, Culture chez nous. Et à partir de là, comment est-ce qu'on fait la différence entre la création artistique et simplement l'expression de chaque citoyen?
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui relève de l'ethnographie d'un côté. ouais. ou en tout cas de le travail des archives, ça va être de témoigner pour l'avenir d'une sorte d'instantané qui n'a rien à voir avec l'artistique, là, pour le coup.
Alors, pour poser la question un peu plus brutalement, est-ce que la bonne chose à faire ne serait pas de dire finalement, la culture n'a rien à dire pour l'instant sur ce qui se passe, il faut s'interroger et il faut prendre du temps.
Je pense, oui, je pense par exemple à...
C'est une formule définitive.
C'est le temps long du créateur. Moi, je pense surtout à l'auteur de fiction, et même dans une recherche, par exemple Bruno Latour sur son enquête sur les mondes d'existence, il propose en partie que les êtres de fiction qui étaient déjà proposés d'ailleurs par Guattari et Deleuze pour rechercher, mm-hmm. parce que ce sont des êtres qui peuvent aller un peu n'importe où, leur corps, donc c'est comme des têtes chercheuses, on pourrait dire. Effectivement, ces êtres de fiction ont peut-être des choses à dire, mais pas autant même présent. Ça peut être sur une autre forme de distance, s'ils se décalent.
L'autre contradiction, enfin l'un des champs de tension difficiles, c'est que c'est la manière dont on réagit à la catastrophe. C'est-à-dire que quand Antonin Artaud, par exemple, écrit « Le théâtre et son double », jamais quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on a autant parlé de civilisation et de culture, il fait tout son parallèle entre la peste et le théâtre, parallèle resté fameux, le poison du théâtre jeté dans le corps social, le désagrège, etc. Là, on a la description qui fait de la peste est dantesque. C'est un tableau de, c'est des sortes de cauchemars. Là, la manière dont on répond, en tout cas dans nos contrées au virus, c'est extrêmement peu spectaculaire. C'est-à-dire, c'est le confinement. C'est-à-dire que, basiquement, c'est très difficile de trouver une réponse artistique à quelque chose qui ne se passe pas ou peu. On n'est pas comme au Brésil où les morts s'entassent, ou même dans certains coins de New York. Ici, les choses, l'un des paradoxes, c'est que les choses restent très, pour l'instant en tout cas, très peu spectaculaires. Est-ce que c'est pas très difficile de trouver un dispositif artistique pour rendre compte de ça?
Oui, parce qu'on est dans une société qui cache la mort, enfin
qui
a complètement effacé, ou qui tente d'effacer complètement cette chose-là, et depuis longtemps, oui. Mais de façon très déterminée pour le coup. C'est la grande différence avec la peste d'ailleurs.
Exactement. Je me suis demandé si le confinement ne préfigure pas ce que l'ingénieur informatique Marc Wieser écrivait sur l'ordinateur pour le 21e siècle dans un article des années 90, où il écrivait « La réalité virtuelle n'est qu'une carte, pas un territoire. C'est une carte qui exclut les bureaux, les autres gens, comme elle exclut l'atmosphère extérieure, les arbres, les promenades, les rencontres de hasard et en général la richesse infinie du monde. » Alain Guillot, vous avez travaillé sur la cartographie vous-même. Est-ce que ce qui se passe n'est pas, avec en plus l'accent mis sur Internet aujourd'hui et demain peut-être sur le traçage, est-ce que ce qui se passe n'est pas le début d'une nouvelle cartographie sociale?
Bon, oui, alors je pense d'abord que vous avez raison d'aller chercher chez Artaud le théâtre et son double, mais quand même de préciser que la question se pose différemment à l'ère d'Internet. Donc, oui. Effectivement, si Artaud, dans sa préface, lui aussi parle de cette distinction entre l'art et la culture, hein, qui ne peuvent aller d'accord, dit-il, hein, contrairement à l'usage qui en est fait, en tout cas dans les représentations qu'on s'en fait. À l'ère d'Internet, à l'ère de la circulation des images, des téléphones portables, la question se pose tout autrement. Donc je crois qu'on a un peu de mal à transposer les choses. Oui. Pour ce qui concerne la cartographie, alors j'ai souri tout à l'heure en entendant le choix que vous aviez fait de Hubert Félix Thiéfaine. Puisqu'il y a dans le champ de la cartographie une carte qui est très très célèbre, qui a beaucoup inspiré, disons, les artistes cartographes à partir des années 60, qui est la carte du choléra de John Snow, qui date de 1854, mm-hmm. qui est une carte de l'épidémie du choléra, donc qui n'est pas du tout une carte à vocation, disons, artistique, mais qui est une carte que John Snow, donc, qui était un médecin épidémiologue, je ne sais pas si à l'époque ça existait, a fait dans le quartier très pauvre de Soho à Londres, puisqu'il avait eu l'intuition que le choléra ne passait pas donc par les miasmes et la respiration, mais par l'eau. Et donc il a fait une carte très très précise de ce quartier en allant repérer les fontaines et les endroits. Et il a pu déterminer comment le choléra finalement passait par l'eau. Et c'est une carte très très importante parce que elle s'est construite à mesure qu'il a arpenté ce quartier, qu'il a posé des questions, donc il a fait un travail de terrain. Et c'est une carte qui reste une sorte de référence. Après, beaucoup plus tardivement, notamment pour Debord, les situationnistes, et cette idée que on peut fabriquer des cartes à partir de l'expérience des usagers et non pas des cartes surplombantes, etc. Or, les cartes qu'on voudrait nous proposer là, avec bien sûr le traçage, les applications, etc., sont des cartes surplombantes qui simplement se servent aujourd'hui des technologies GPS satellitaires, mais qui restent ces outils, ces instruments de pouvoir que les cartes ont toujours été. Ces questions, elles sont très anciennes, finalement. Elles sont simplement réinventées et posées d'une autre manière avec des nouveaux dispositifs. Mais dans le fond, elles font appel à des questions fondamentales d'empêchement des libertés, de déplacement, etc.
Alors, on va écouter Patty Fenn, on va écouter d'autres artistes qui essayent de rendre compte de ce qui se passe en ce moment, même si c'est par hasard. C'était la dernière chanson des Rolling Stones, écrite avant le confinement, mais qui semble écrite pour le confinement. Comme quoi, c'est pas quand on essaye de rendre compte précisément des situations qu'on y arrive le mieux, c'est quelquefois par hasard. Anna Guillot, vous avez publié dans votre revue Tête à Tête un numéro spécial sur les catastrophes, dans lequel il y a plusieurs entretiens avec plusieurs artistes, et il y a en particulier un entretien avec Maurizio Brocci, l'écrivain napolitain qui est aussi acteur, qu'on a vu notamment dans le film de Ferrara sur Pasolini, et qui dit que cette répétition de catastrophes qui deviennent des catastrophes sociales et humaines donne également naissance à une créativité désespérée. Et c'est pour cela que la plus grande créativité de cette ville, il parle de Naples, a toujours été celle exprimée par les analphabètes à travers la chanson et le théâtre. Maurizio Brocci parle aussi du hasard de cette acception qui correspond à une aptitude à envisager la réalité, le fait de ne rien prévoir et de réagir à ce qui se passe. Vous pouvez commenter une seconde.
Oui, tout à fait. Bon, alors moi, ce n'est pas moi qui ai mené cet entretien Maurizio Brocci. C'est déjà un numéro un peu ancien. C'était un numéro qui date de l'automne 2012. Donc, on n'est pas du tout dans le contexte, disons, actuel. Mais effectivement, donc cet entretien qui était mené par Karen Dutrecht avec Maurizio Brocci est très intéressant parce que il pose cette scène absolument incroyable qu'est la ville de Naples. Et c'est curieux que vous ayez relevé cette phrase dans cet entretien qui est très très long sur le fait qu'à Naples, ce soit, selon ses propres termes, les analphabètes qui se soient toujours exprimés à travers la chanson et le théâtre. Alors, faut préciser aussi que Maurizio Braucci a travaillé et travaille dans un quartier très précis qui est le quartier de Scampia à Naples, qui est un quartier très pauvre dans lequel il a monté des projets de théâtre. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui travaille dans les maisons d'arrêt, qui est aussi formateur, travailleur social. Enfin, bon, il a plusieurs cordes, disons, à son arc. Et je trouve très intéressant qu'il aille chercher dans cette figure que l'on trouve dans un tableau de Ribera, du pied beau de Ribera, qui est cette figure du guérisseur blessé. C'est-à-dire c'est à la fois celui qui est atteint, celui qui est le plus faible, qui va pourtant venir guérir, aider, etc. Donc il parle d'une certaine manière de la modernité de cette ville, une modernité comme catastrophe.
Il dit oui, c'est ça, la modernité comme catastrophe. Il y a aussi avoir rencontré un écrivain dont l'une des phrases l'a beaucoup marqué. La phrase était « J'ai toujours vécu avec l'impression que brusquement, en regardant le monde alentour, pouvait survenir quelque chose, un météore, un tremblement de terre, un raz-de-marée, quelque chose qui viendrait tout détruire. J'ai toujours eu cette sensation, moi aussi, dit-il. » Proximité du danger. Boris Leroy, je me demandais si on ne pouvait pas rapprocher ça de certaines phrases, de certaines considérations de Musil, justement, sur le fait que tout peut changer n'importe quand, dans n'importe quelle direction. Et qu'il faut essayer de, non pas de s'adapter, mais il faut essayer de se vivre comme une sorte de né pour le changement, de faire en sorte que la régularité et l'accident se mêlent en quelque sorte.
Oui, déjà, juste avant de reparler de Musil, je vais revenir sur le cas de l'éducation occidentale, où justement, quand je suis allé au Nigeria, il y a eu un attentat au bout de quelques semaines près de l'aéroport de Abuja. Et puis, trois semaines après, le 13 novembre, en France. Et c'est vrai que c'est sur ce double attentat, quel que soit l'endroit où j'étais dans le monde, finalement, à l'autre bout du monde, j'avais la sensation que le danger était... est-ce que c'est plus une sensation qu'une réalité? Ça, c'est toujours la question. Mais en tout cas, elle était très prégnante. Et c'est ça qui est... C'est ce double choc qui m'a amené à créer... Pour revenir sur Musil, qui a quand même travaillé une grosse partie de son œuvre, c'était un travail sur la probabilité, et c'était une longue résignation chez lui. C'était comment arriver à un réalisme probable, et il attendait beaucoup des artistes dans ce domaine. C'est-à-dire de comment transformer en fait au fond la fatalité en quelque chose d'une moyenne des probables. Il attendait beaucoup de la dialectique entre la rationalité et le sensible. Je crois qu'il a emprunté aussi à Nietzsche la mathématique du sensible, des choses comme ça. Il travaille énormément qu'est-ce qu'une moyenne, en gros, qu'est-ce qu'une moyenne, comment est-ce qu'on tend vers une moyenne, et comment aussi c'est, comme je disais tout à l'heure, l'instable qui produit quand même.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, dans ce qu'on cherche, dans cette modernité qu'on cherche et qu'on subit en même temps, il y a quelque chose d'une régularité constamment mise en défaut par l'instabilité ou la catastrophe, quoi. Et c'est à ça qu'il faut à la fois faire face et à quoi il faut donner forme.
Oui, parce que c'est toute une construction du commun à travailler. C'est pour ça qu'il y a cet objectif de trouver une moyenne à des crises permanentes parce qu'on est en commun. C'est pas par l'individu, c'est par le commun. Donc la fiction, est-ce qu'elle peut partir du local vers le général? C'est toujours un peu la question, je pense.
On va devoir s'arrêter là. Cette émission touche à sa fin. Je vais finir en citant une citation de Musil, justement. À tout instant, le monde pourrait être transformé dans toutes les directions, ou du moins dans n'importe laquelle. Il a ça, pour ainsi dire, dans le sang. C'est pourquoi il serait original d'essayer de se comporter non comme un homme défini dans un monde défini, mais dès le commencement, comme un homme né pour le changement, dans un monde créé pour changer. Voilà. Merci à vous trois. d'avoir participé héroïquement à cette émission. C'est difficile à faire.
Merci.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Sandrine Chaperon, avec à la technique José Bernays et à la réalisation Charlotte Trou. Et dans un instant, une histoire particulière.
Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue.